des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Il faut que je vous fasse une confession. Je fais des fois des blagues en parlant des notaires, en disant que c'est une job banale, ordinaire. Tu sais, quand on dit simple comme un notaire ou c'est comme un peu comme un gérant de caisse populaire. Mais dans le fond, je suis fascinée par ce métier-là parce que je trouve que c'est des gens qui interviennent dans nos vies vraiment à des moments clés. Et parmi les notaires, il y a vraiment une femme pour qui j'ai beaucoup d'admiration parce que chaque fois que je pars avec elle, je parle avec elle, elle me fait beaucoup rigoler. Elle s'appelle Marie-Josée Saint-Laurent, elle est auteure, conférencière et notaire. Et là, elle publie un nouveau guide qui s'intitule « Si je meurs, pour un testament parfait ». C'est pour nous aider donc à mieux confectionner les testaments. Maître Saint-Laurent est au bout de la ligne. Bonjour, comment allez-vous?
Bonjour Sophie, ça allait bien jusqu'à temps que tu m'appelles maître.
Oh oui, maîtresse, excusez-moi.
Je déteste ce titre. Hey, écoute, ça va faire 30 ans que je suis notaire. En juin, et je n'ai jamais assumé ce titre-là que je trouve trop prétentieux. Donc oui, je me fais appeler la maîtresse à la blague, mais Marie-Josée ou notaire, la plupart des gens, c'est comme ça qu'ils m'appellent.
Bon, ben Marie-Josée, ça va être tellement plus simple. Marie-Josée, je vous ai fait à plusieurs reprises, j'ai fait des entrevues avec vous et on en a parlé souvent de cette particularité-là, des gens qui commencent leur phrase en disant « si je meurs, je voudrais donner de l'argent à telle et telle personne », comme si c'était une option, comme si on avait l'option de pas mourir. Alors, c'est le titre que vous avez décidé de donner à votre livre. Pourquoi?
Ben en fait, c'est là justement quand je rencontre les gens pour prendre mes renseignements pour faire leur testament, c'est systématique, ils me disent oui notaire, mais si je meurs là. Tu sais, à moins d'une personne qui est décomptée là, qui sait qu'il va mourir dans quelques jours parce que oui, ça arrive aussi ça que je vais les rencontrer, ben c'est ça que les gens me disent. Ouais, mais si je meurs. Et moi ça me fascine à tout le temps parce que justement c'est comme tu l'as dit, c'est comme si on va se tutoyer Sophie
si
tu le veux bien et donc ça me fascine parce que l'humain se croit vraiment éternel, tout ça est inconscient, mais je vous informe peut-être en vous disant que la vie est un contrat par lequel on ne s'en sort pas vivant. Donc oui, on va tous mourir. J'aimerais ça rester sur la terre, Sophie. J'aimerais tellement ça.
Ben oui.
Parce que moi, je veux vivre jusqu'à 120 ans en forme avec une qualité de vie à 100%. Moi, je veux ça dans la vie. Puis, tu sais, j'aimerais ça être éternel. Mais on sait que ça se peut pas. Mais on peut quand même vivre assez longtemps. Et on fait faux parcours, par contre. Et c'est ce que je fais. Je m'efforce de faire les choses du mieux que je peux pour rester en vie longtemps.
Parce que on comprendrait quelqu'un qui vient vous voir, qui vient te voir pour un contrat de mariage, puis qui dit si je divorce, parce qu'en effet il y a la possibilité que tu divorces pas, mais tu peux pas dire si je meurs parce que bon c'est plutôt quand je vais mourir. Bon, c'est quoi le plus gros problème, la plus grande réticence, la plus grande crainte que les gens ont quand vient le temps de faire leur testament? C'est quoi leur plus grande peur?
Ben c'est de parler de la mort, justement, parce que les gens se croient éternels inconsciemment. La mort, c'est pour les autres, les accidents, c'est pour les autres. Donc, moi, mon but dans la vie, ma mission dans la vie, Sophie, c'est de vulgariser l'information pour que les gens apprivoisent la bibitte qu'est le notaire. Et je sais, j'en suis une. D'ailleurs, je me fais appeler notaire pas ordinaire. Je sais que je suis une bibitte, mais cette bibitte-là, elle mord pas. Puis, c'est sûr que quand on va... Tu sais, quand on va chez le dentiste, Sophie, on n'aime pas ça. Hein, ou quand on va chez le médecin, ça nous tente pas d'aller là. Mais on le sait que c'est nécessaire. Ben, le notaire, c'est la même chose. Et dans le fond, moi, ma mission dans la vie, c'est de vulgariser l'information pour que les gens apprivoisent le notaire. Et mon but dans la vie, c'est que les gens... Je te dis pas, Sophie, je vais faire tous les testaments du monde entier, mais j'aimerais beaucoup que les gens fassent leur testament, bien évidemment notarié, parce que je prêche pour ma paroisse, mais l'idée, c'est que les gens aient mis par écrit leur volonté, parce que ça m'arrive tellement trop souvent de régler les successions de gens que je sais très bien que c'était pas ce qu'ils voulaient, que la loi s'est chargée de leur dernière volonté alors qu'ils auraient pu le faire. Donc, le but de mon guide, ben c'est tout ça, c'est de vulgariser l'information, c'est de divertir les gens, oui, parce que ce sont des anecdotes qui se sont réellement passées dans mon bureau, qui parlent de testament, mais le plus de ce guide-là, c'est qu'à la fin, il y a un questionnaire détachable, et au fur et à mesure que les gens lisent mon guide, qui est composé d'anecdotes, ben ils s'enrichissent en même temps qu'ils se divertissent, et à la fin, au fur et à mesure, ils peuvent remplir les questions que le notaire leur poserait s'ils iraient chez le notaire. Voilà. Donc, ce guide-là remplace un peu, je dis bien un peu, la première rencontre si stressante avec le notaire dans le but de faire leur testament.
Voilà, parce que c'est tellement plus rassurant de le faire dans le confort de la maison, parce que ça nous donne le temps, versus on est dans le bureau du notaire, il nous dit, bon, ben qu'est-ce qui arrive si, par exemple, je pense aux familles recomposées, hein, à quel point c'est compliqué, quand on a eu des enfants d'une union précédente, on a eu des enfants dans une nouvelle union, on veut que ce soit équitable, puis quand le notaire nous dit, bon, ben si vous mourez avant votre ex-conjointe, comment vous faites pour... Tu sais, c'est toutes des questions extrêmement difficiles, puis ça peut devenir très émotif. Moi, je le sais, ça m'est déjà arrivé de partir à pleurer dans le bureau d'un notaire parce qu'il me posait des questions. C'est des scénarios que t'as pas envie d'envisager. Tu sais, quand on dit, ben si vous mourrez dans le même avion que votre conjoint puis que votre enfant se trouve orphelin, écoute, j'étais plus arrêtable, toi. Une vraie Madeleine.
Non, mais... Ben Sophie, je vois ça continuellement parce que malheureusement, c'est nous autres c'est moi qui fais réaliser ça aux gens que ça peut arriver. Tu sais, on souhaite pas ça dans la vie, mais ça peut arriver. Bon, oui, ça m'arrive souvent d'accompagner les gens effectivement. Et je peux te dire Sophie que souvent les gens en bon québécois, ils se tapent des cartoons avant de venir me voir. Ils font tellement des scénarios, là, plus ils se compliquent la vie, là, plus ils voient ça comme une montagne. Mais c'est drôle parce que une fois qu'on a jasé ensemble, ben tout ça est dessoufflé, là. La grosse montagne là, est rendue plate parce que je leur ai simplifié ça. Et finalement, ils sortent de mon bureau beaucoup moins stressés.
D'accord.
Guide, ça sert à ça.
Oui, ça sert à ça. Et qu'est-ce que tu penses de toute cette tendance-là qui existe, qui est présente? Il y a même des livres qui sont écrits là-dessus. C'est « die broke », c'est-à-dire « mourez en ne laissant rien derrière vous ». Puis l'argent que vous avez, profitez-en pendant que vous êtes vivant. Puis c'est pas grave si vous laissez strictement rien du tout aux gens une fois que vous mourrez. Qu'est-ce que tu en penses de cette tendance-là?
Ben moi, je suis totalement en accord avec ça. C'est pas une obligation légale de laisser quelque chose en bout de ligne. C'est sûr que j'accompagne des gens qui renoncent aux successions de leurs parents, à la succession de leurs parents parce qu'il n'y a plus d'argent. C'est une honte, beaucoup. Moi, j'arrête pas de leur dire, ben voyons, c'est pas vous qui êtes décédé sans argent, c'est votre mère ou votre père ou peu importe.
Ouais.
Et c'est vraiment leur choix ou peu importe. Mais une chance, au moins, on a l'occasion de refuser ces successions-là.
S'il y a une dette, c'est ça.
Qui a gagné cet argent-là, elle a bien le droit de faire ce qu'elle avait.
Mais ça, c'est important que tu rappelles ça, Marie-Josée, parce que moi, je me souviens, il y a plusieurs années de ça, il y avait quelqu'un que je connaissais qui était extrêmement fâché parce que quand son père était décédé, il avait appris que son père donnait de l'argent, genre à des cousins, des oncles, des tantes, et que sa portion qui lui revenait à lui en était réduite d'autant. Puis il était hyper fâché contre son père. Puis j'arrêtais pas de lui dire, tu sais, un testament, ça s'appelle les dernières volontés.
Et
puis
voilà.
Le mot-clé, c'est le mot volonté.
Ben, tu peux pas oublier. Pourquoi que cet enfant-là, il prenait pour acquis que son père, il donnerait de l'argent?
Ben oui.
Tu sais, quelque part, là, si son fils, il est jamais allé le voir, puis il s'en est jamais occupé, mais que d'autres gens qui venaient le visiter puis qui s'en occupaient. Moi, les gens, souvent, quand je prends les renseignements pour faire leur testament, une fois qu'on a on a décidé, bon, le couple se lègue l'un l'autre, leur bien, s'ils sont pas là, mm-hmm. ce sont leurs enfants, etc. Mm-hmm. Puis là, la catastrophe arrive, si tout le monde part, à qui vont vos biens? Là, ils sont là, puis ils me regardent. Là, je leur mets ça dans une autre phrase. Qui mérite de recevoir ce pourquoi vous avez travaillé toute votre vie?
Bonne question.
Fond, c'est un peu ça, la question. Donc, tu sais, c'est pas parce que c'est tes enfants. Le lien de sang, là, ben, ça reste bien rien qu'un lien de sang. Il y a mm-hmm. des gens qui sont encore des fois plus significatifs que tes proches, que tes liens de sang, en fait, mm-hmm. parce que eux autres, ils ont vraiment à cœur ton bien-être. Là, faut faire attention aussi. Par contre, Sophie, faut voir s'ils font pas juste ça pour justement là, avoir l'héritage, là, des suceux d'héritage qu'on appelle là, en bon québécois. Donc tout ça se démystifie. Mais écoute, mais justement, c'est à nous à voir à ce que nos volontés soient ouais. Mises par écrit et respectées et appliquées ouais. selon ce que nous on veut. Puis au diable, les candidats-on, de toute façon, la personne est décédée, puis si elle est morte en paix avec ses choix, ben tant mieux, c'est ça le but.
Voilà, c'est ça. Mais moi, j'insiste tout le temps là-dessus. Dernière volonté, ben c'est des volontés, puis c'est ce que la personne veut, puis elle peut toujours bien faire ce qu'elle veut avec cet argent, surtout si elle l'a gagné de façon respectable. Qu'est-ce que la pandémie a changé dans l'attitude de tes clients face à leur testament? Est-ce que ça a changé quelque chose?
Oui, les gens sont beaucoup plus enclins à le faire, mais ça a changé quelque chose dans ma vie à moi, parce que j'ai élaboré justement des programmes en ligne aussi en parallèle avec mon guide, des programmes en ligne qui se font à la maison, donc comment préparer votre testament dans le confort de votre foyer et à votre rythme. Alors ça aussi, ça remplace la première rencontre chez le notaire. Donc c'est un programme en ligne qu'on achète et qu'on regarde. C'est des vidéos, je fais des petites mimiques et j'explique tout ça comme si les gens étaient dans mon bureau. Mais tu sais, ils ont le pouvoir de réécouter et de revisionner et tout ça avec le même questionnaire en PDF qu'ils peuvent imprimer et remplir aussi. Et suite à ça, ils communiquent avec moi et on finalise tout à distance.
Bon, donc, c'est
les
super.
Gens, avec la pandémie, ça a eu du bon. Et moi, là, Sophie, là, je travaille encore avec une dactylo. Puis c'est pas une joke. Là. J'ai vraiment une dactylo dans mon bureau. J'ai okay. pas d'Internet sur mon cellulaire, par choix. Je suis réticente au changement au possible. Peut-être que ça a rapport avec ma profession. Je ne sais pas. Mais je suis une contradiction sur deux pattes. Je suis notaire pas ordinaire. Imagine, j'ai une dactylo. Donc, ben oui. Mais tout ça pour dire que je me suis bottée le cul en bon québécois et j'ai mis la technologie au service des gens et à mon service aussi pour pouvoir encore plus réaliser mon but, soit que les gens aient un testament en bonne et due forme.
C'est quoi l'anecdote la plus drôle, l'affaire la plus drôle qui t'est arrivée, que t'as pu constater par rapport à des gens qui faisaient leur testament?
Ben, écoute, j'en ai plusieurs, mais il y en a une qui me frappe encore plus. Ce sont deux frères aveugles qui reste dans le fin fond d'un rang, là, au milieu de nulle part. Je suis allée les rencontrer pour faire leur testament. Et eux m'avaient connue parce que j'étais chroniqueuse à la radio et à la télé dans mon patelin. Je faisais okay. des chroniques juridiques. Et à toutes les semaines, le plus vieux des deux frères m'appelait parce que eux autres, leur seul loisir étant aveugle, était d'écouter la radio. Et à chaque semaine, il m'appelait après ma chronique pour me dire à quel point il aimait donc ça, puis que je les faisais donc rire, puis que je les... Il trippait bien raide sur moi, alors, ouais. Québécois. Et quand je suis allée les voir, moi, je les voyais, mais eux me
les voyaient. Les voir, ouais.
C'est quelque chose d'aller rencontrer des gens aveugles. Hein. C'est toute une réalité qu'on peut pas s'imaginer. Et dans mon guide, ben, je raconte cette anecdote-là, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui voit, quelqu'un qui voit pas, et toutes les constats que j'ai faits durant ces deux rencontres-là, parce que je suis allée deux fois, la première fois pour prendre les renseignements, et la deuxième pour aller sur la signature. Et c'est deux personnes extrêmement comiques. J'ai eu beaucoup de plaisir à les côtoyer, puis c'est ce que je raconte dans mon guide. C'est vraiment drôle, là. C'est vraiment vraiment comique. Je rapporte leurs propos okay. par rapport à leur vie, puis ils appelaient leur sœur les petites maudites. En tout cas, écoute, c'est drôle, c'est hilarant. Et malheureusement, il y a un des deux frères qui est décédé. Et je raconte aussi cette deuxième portion-là quand j'ai eu à régler la situation avec le frère qui reste Mais il avait fait leur testament. Donc, le frère était
protégé.
Il était en paix parce qu'il avait fait ses dernières volontés.
Oui. L'affaire la plus triste, parce que bon, ça crée des fois des chicanes. On l'a vu, il y a eu un cas récemment, un monsieur qui était décédé, qui avait laissé des millions de dollars à sa femme et ses deux fils, et un des deux fils était nommé exécuteur testamentaire, et en fait, il a fait signer des papiers aux autres membres de sa famille, et il s'est créé en parallèle une petite compagnie, et en fait, des millions de dollars sont allés dans cette compagnie-là. Ça crée aussi parfois des tensions. Donc, l'histoire la plus triste qui t'est arrivée par rapport à des gens qui avaient fait un testament?
Ouais. Je vais juste rajouter quelque chose sur ce que tu viens de dire. Moi, la réaction que j'ai en premier, c'est « Mon Dieu, ce monde-là, qu'on est capable de dormir. » Tu comprends?
Ouais. Okay. Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais.
La plus triste, écoute, j'ai eu à faire un tirage au sort. Lors du décès de la mère, ouais. En fait, son argent a servi à payer tous ses frais funéraires et tout ça. Il en restait plus après. Et il restait trois biens de peu d'importance, mais d'importance sentimentale. Ils étaient sept. Il restait un pouf, un pendentif et un manteau de fourrure qui avait vu la guerre, qui avait fait la guerre. J'ai pas eu le choix de faire un tirage au sort et c'était épouvantable. Ces gens-là ne se parlent pas encore aujourd'hui, ça fait 20 ans.
T'es pas sérieuse.
Ouais.
Ils se parlent pas parce qu'il y en a un qui est jaloux d'un pendentif ou d'un pouf tout incroyable.
Je les avais avertis au début, là. C'est sûr qu'il y en a qui vont sortir pas contents, là. Il y a trois choses, puis vous êtes peut-être. Non, c'est pas grave. C'est eux qui ont choisi, parce que moi, je leur avais donné plusieurs options. Puis ils ont dit non, c'est correct, c'est ça qu'on veut, parce qu'ils auraient pu vendre ces biens-là, même s'il y avait peu de valeur monétaire, mais ils ne voulaient pas justement parce qu'il y avait une valeur sentimentale.
Incroyable.
C'est ça. Ils ont choisi le tirage au sort, mais après ça, ça a été ça a été vraiment triste. Et c'est ça. Ils ne se parlent pas encore.
La fin de la famille. Ben écoute, on a très hâte de lire ça. Donc, ton guide s'intitule « Si je meurs, trois petits points de suspension pour un testament parfait ». Et oui, on le rappelle, on va tous mourir un jour. Je suis désolée de vous le rappeler aujourd'hui, 26 février 2021. Mais c'est le sort qui nous attend tous. Autant être bien préparé. Merci beaucoup, Marie-Josée Saint-Laurent, auteure, conférencière et notaire. C'est toujours un plaisir de te parler.